France Inter.
Corinne Pellissier pour la revue de presse. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Et une large partie des journaux consacrés évidemment ce matin au gigantesque incendie qui sévit en ce moment dans l'Aude.
Ah, le feu du siècle, le titre ce matin de La Provence, qui comme Libération, comme Le Figaro, comme L'Humanité, affiche en une ce désolant spectacle de garrigues et de voitures calcinées, l'Aude en feu jusqu'à la mer. Il aura fallu à peine plus de 24 heures, nous dit Le Parisien, pour qu'un millième de la surface forestière française soit réduite en cendres. C'est dire la force et la rapidité de cet incendie, toujours incontrôlable en dépit des moyens colossaux déployés. Du jamais vu depuis 50 ans, titre Libé, qui a dépêché, comme les autres, ses reporters sur le terrain, à la rencontre des riverains, des touristes, des pompiers, tiraillés entre ces deux options face aux flammes, confinés ou évacués. Toutes les personnes interrogées témoignent de la peur, du caractère inédit de ce feu. Dans la matinale du Monde, c'est Bruno à Coustouges qui raconte être au milieu des flammes, entendre leur bruit, c'était effrayant, mais il fallait que je reste pour protéger ce qui fait ma vie. Ils se sont aujourd'hui seuls au monde.
Et alors que le sud de la France s'apprête à vivre une nouvelle journée de température caniculaire, toujours dans la matinale du Monde, un coup de gueule qui retient l'attention ce matin.
À Tribune, dans le journal de l'écrivain Thomas Clerc, qui s'insurge contre le ventilateur de poche, objet le plus con jamais inventé, écrit-il. C'est en prenant le métro au début de l'été à Paris qu'il a découvert son existence, une petite chose moche et ridicule, 100% plastique qui précipite la destruction de la planète. Il y a des chances qu'il n'apprécie pas non plus, Thomas Clerc, les nombreux coffee shops qui remplacent dans les grandes villes les petits bistrots aux murs jaunis par les cigarettes. Article à lire cette fois dans les pages Écho du Figaro. L'explosion de ces mini-boutiques d'à peine parfois 4 mètres carrés qui redessinent la consommation du café à grand renfort de décorations instagrammables, de pâtisseries faites maison et de playlists musicales adaptées. Une tendance qu'a chiffré Le Quotidien. Il s'ouvre en moyenne un nouveau coffee shop chaque semaine en France. On en est déjà à plus de 3500, gare à la saturation. Les restaurateurs qui avaient misé il y a quelques années sur la folie, par exemple des Pokéballs, ont quasiment tous fermé depuis.
Les magazines en mode vacances et Télérama nous invitent cette semaine à danser.
Mais oui, on a tous dans le cœur un souvenir de danse, un slow qui nous a émus à l'adolescence, nous dit le magazine. Un frisson soudain lors d'un concert, un fou rire sur le dance floor. Du voguing au pogo, en passant par la Laponie, par la folie du tango. Télérama, dans son numéro double du mois d'août, nous invite à monter le son pour esquisser quelques pas. La danse devenue aussi un outil puissant de lutte dans la rue, en Iran, au Chili ou dans les cortèges en France pour défendre les retraites.
Non, je ne veux plus jamais travailler.
Éloge de la danse ou alors éloge de la sieste dans le dernier numéro du magazine Elle. 32 pages pour chiller, buller, procrastiner et en faire le moins possible. Quel fainéant sommes-nous ? Comme bien souvent, tout commence par un test. Alors attention Alexis, rond, carré, triangle, il va falloir répondre à cette question. D'accord. À quoi ressemblait votre dernière bouffée de flemme ? Un chariot laissé en plan à l'hypermarché, trop de monde à la caisse, à l'effacement de vos mails pro sans le lire, sans les lire,
coucou
patron ? Ou alors à l'invention d'un gentil bobard pour ne pas rendre service, parce que bon, faut pas abuser non plus. Vous pourrez lire la réponse, compléter le test, page 63, en marge de cet article qui nous explique que la paresse, eh bien, c'est peut-être génétique. Le magazine a donné la parole à un paléontologue. Est-ce de ma faute si j'aime l'oisiveté ou bien alors à celle de mon ADN ? Vaste question.
Parole aussi à un astrophysicien dans le Nouvel Obs pour un dossier très complet qui vous a beaucoup plu, dédié à la conquête de Mars.
Oui, 10 pages consacrées à la dernière lubie de Donald Trump, objectif Mars, pour réaffirmer son hégémonie. Le président américain a décidé de faire de la conquête de la planète rouge une priorité nationale. Seul problème, comment y vivre ? Mais on ne peut pas, répond Francis Rocard, le scientifique interrogé par le magazine. Entre les tempêtes de poussière, les températures extrêmes, les dangers du vol, coloniser Mars est une illusion qui plus est hors de prix. 400 milliards de dollars pour une expédition habitée. Voir Mars et mourir, oui, sans doute. Il y a peu de chances, d'après lui, qu'on puisse en revenir un jour.
En kiosque aussi ce jeudi, le magazine Le Point qui nous emmène à Hollywood.
Fini de rêver après le Covid, après la grève, après les incendies et la mainmise des plateformes sur l'industrie. La capitale du cinéma est aujourd'hui face à une crise structurelle sans précédent. L'avenir passera-t-il par les femmes ? Le magazine nous laisse entendre que oui, en titrant sur les nouvelles bosses de Los Angeles. Emma Stone, l'intello, Reese Witherspoon à la défricheuse et en couverture Scarlett Johansson, l'invincible. Enfin, l'Express vous invite cette semaine, si vous êtes fan de série, à vous connecter sur le site de la maison Bonhomme de Londres. 263 lots de la série Downton Abbey dont vous entendez le générique qui sont en vente à partir du 18 août. Des accessoires, des costumes tirés de la série anglaise la plus populaire du monde. Avec ses 120 millions de spectateurs, nous dit le magazine, devant Chapeau Melon Bottes de Cuir, devant Amicalement Vôtre, vous y trouverez par exemple la plaquette de sonnette des domestiques. Ah oui. Et même la robe de mariage de Lady Mary estimée de 3 à 5 000 livres, ce qui fait un peu plus de 5 700 euros.
Ça devrait monter bien plus haut peut-être.
Oh oui.
Merci Corinne Pellissier. Bonjour Saskia Deville.
Bonjour Alexis.
On vous retrouve tout à l'heure dans le débat de midi. Vous allez vous intéresser aux privilèges de la beauté.
Et oui Alexis, être perçu comme beau suffit-il à vous faire avancer la vie dans la vie? Je vous pose la question à vous hein, Corinne Alexis. Alors là, la question peut semblait superficielle, mais elle ne l'est pas. Parce que derrière ce qu'on appelle désormais le beauty privilege, le privilège d'être physiquement avantagé, se cache un biais très ancien et profondément ancré dans nos représentations. Dès l'Antiquité, on a associé le beau au bon, une belle âme dans un beau corps, disaient les Grecs. Et cette idée a traversé les siècles, aujourd'hui encore dans nos mots. Une belle personne ne désigne pas qu'un joli visage, mais une figure morale. Et à l'inverse, le vilain, c'est souvent à la fois le méchant et le lait.
Et alors ce glissement de sens a-t-il des effets concrets dans nos vies?
Plusieurs études tendent à le suggérer. La beauté fascine, elle capte le regard, elle fait vendre, parfois même voter, elle devance la parole et elle précède le CV. Certains chercheurs parlent d'un accès facilité à l'emploi, d'un salaire plus élevé. Ils ajoutent même qu'à l'école, déjà, les élèves jugés avenants sont mieux notés et jusque dans les tribunaux, figurez-vous, l'apparence du prévenu peut jouer sur la sévérité de la peine.
Alors donc, faut-il y voir un avantage silencieux qui ne dit pas son nom, mais qui orienterait les trajectoires?
Eh bien, la question dérange, d'autant qu'elle divise. Déjà, le privilege beauty dépend de ce qu'on entend par beauté, un concept aux critères subjectifs changeants, dictés par les époques, les modes ou les cultures. Et puis, certaines et certains beaux, selon les normes du moment, se disent eux-mêmes piégés par ce privilège. Ils sont vus avant d'être entendu, jugé avant d'être écouté. La beauté peut se retourner comme un stigmate, surtout pour les femmes. Alors le privilège de la beauté en est-il vraiment un? Ce midi, on ouvre le débat. Pour témoigner ou poser vos questions, rendez-vous sur l'application Radio France ou envoyez-nous vos notes vocales. Toujours sur le WhatsApp de l'émission au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure, le débat de midi, Saskia Deville. Avant de retrouver ce soir Constance Villanova pour le Mac de l'été. Aujourd'hui, Constance, la mode comme outil de résistance.
Alexis, la mode avait-elle prédit le sacre de l'extrême droite? Depuis quelques années, les réseaux sociaux célèbrent les silhouettes austères, le beige, le propre, le neutre, le refus de la couleur. C'est le règne de la clean girl, la fille parfaite, propre, au chignon parfaitement tiré, qui fait évidemment du yoga. Sur les podiums, les motifs s'effacent, les corps sont blancs et furieusement maigres. Et si ces tendances, en apparence légère, avaient annoncé le retour de l'ultra-conservatisme? Alors comment résister? Peut-être en s'habillant fort, coloré et joyeusement queer. C'est le pari de Jeanne Friot, étoile montante de la mode française, chevalière des arts et des lettres, qui a habillé la Jeanne d'Arc des Jeux Olympiques d'une armure de ceinture. Depuis 2020, elle fabrique ses collections à partir de stocks dormants, sans genre et surtout sans compromis. Elle habille Madonna, cite Virginie Despentes et Bowie comme influence et ouvre chacun de ses défilés par un manifeste politique. Elle sera avec nous ce soir pour parler d'engagement, de féminisme, de couture et de rage constructive. Et en deuxième partie, Amélie Zimmermann, alias Fashion Quiche, spécialiste de la mode, viendra décrypter avec nous ce que notre époque dit à travers les vêtements. Ce soir, dans le Mac de l'été, on monte sur les podiums, mais pour y lever le poing.
Merci Constance, à tout à l'heure, 18h pour le Mac de l'été. Il est 8h55 pour l'instant et c'est notre rendez-vous avec Christophe Galfard, la vie à portée de main. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexis. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, je disais que toute la matière que nous connaissons dans l'univers est faite d'atomes. Eh bien ces atomes, nous connaissons leur structure. Ils sont faits d'un noyau avec des électrons qui leur tournent autour. En général, les noyaux d'atomes sont eux aussi faits de particules plus petites, des protons et des neutrons. Mais le noyau du plus petit des atomes qui soit, l'hydrogène, n'est fait que d'un seul proton. On ne peut pas faire plus simple. Maintenant, voyageons un peu dans le temps et projetons-nous il y a 150 000 ans par une belle matinée d'été. Ce jour-là, le destin de quatre atomes d'hydrogène emprisonnés dans le soleil depuis un moment allait soudain basculer. La pression et la température énormes qui règnent au cœur de notre étoile venaient tout juste de leur arracher leurs électrons. D'atomes d'hydrogène, ils étaient devenus des noyaux d'hydrogène, des protons qui, comme deux pôles plus d'un aimant, tentaient désespérément de s'éloigner les uns des autres. mais il n'était pas assez puissant. Submergés par la gravitation de l'étoile, ces protons ont fini par se rapprocher de plus en plus les uns des autres, jusqu'à ce qu'une cascade de réactions s'enclenche, les amenant finalement à fusionner et à devenir les noyaux d'un atome plus grand, l'hélium, le deuxième plus petit atome de l'univers. Au début du XXe siècle, l'astrophysicien anglais Arthur Eddington a remarqué qu'un noyau d'hélium a moins de masse que quatre noyaux d'hydrogène. Pourtant, comme vous venez de le voir, l'hélium est forgé dans les étoiles à partir de quatre noyaux d'hydrogène. La fusion des atomes faisait donc perdre de la masse au Soleil. Mais ça, c'était pas possible. La masse ne peut pas disparaître, elle devait être transformée. Mais en quoi ? Le fameux E égale MC2 d'Einstein donnait la réponse. Elle s'est transformée en énergie. Eddington venait de comprendre pourquoi les étoiles brillaient. L'énergie libérée par la fusion repartait vers la surface et finissait, au bout de 150 000 ans, à sortir. Revenons donc dans le présent. Ces 150 000 ans viennent de s'écouler et l'énergie libérée par la fusion de nos quatre atomes d'hydrogène vient d'atteindre la surface du Soleil. Là, elle s'est instantanément transformée en un rayon de lumière ultraviolet. Un rayon de lumière enfin libre de foncer vers l'aventure, vers l'immensité de l'espace. Mais il va pas aller bien loin ce rayon, car une planète bleue se trouve sur son chemin. La Terre. En 8 minutes et demie, il atteint le sommet du ciel. En moins de 3 millionièmes de secondes supplémentaires, il traverse le ciel, puis la vitre du studio et paf, Alexis, je suis désolé, mais il vient d'entrer dans votre main. Dans la cellule que vous ne m'aviez pas prêtée avant-hier. Et pas de bol, par un malencontreux hasard, l'énergie transportée par ce rayon s'avère être précisément celle qui est nécessaire pour transformer une lettre de votre ADN en une autre. Ce qui, en général, n'est pas une très bonne nouvelle. Mais réjouissez-vous, cher Alexis, car ce que vous venez potentiellement de perdre en espérance de vie, vous l'avez gagné en savoir, et ça, ça n'a pas de prix. Car vous venez de voir un exemple de comment l'ADN d'un individu peut changer à travers le temps. Et donc, peut-être donner naissance à une nouvelle espèce. C'est en vous laissant y réfléchir, cher Alexis, que je vous dis à demain.
L'espérance de vie ou le savoir, je ne sais pas si je dois vous remercier. Merci Christophe Galfard, la vie à portée de main. Après 9h, vous retrouverez, après le journal de 9h, vous retrouverez Charles Pépin sous le soleil de Platon, Charles.
Bonjour Alexis, aujourd'hui c'est Gérald Garrutti que je suis très heureux de recevoir sous le soleil de Platon. Il est metteur en scène, dramaturge et écrivain. Et on va se demander avec lui comment retrouver une parole juste, comment réapprendre à se parler.
A tout de suite, il me reste quelques secondes pour remercier les équipes du 6-9 cette semaine à la réalisation Anne-Laure Cochet, Marie Potier, à la rédaction en chef Lionel Thompson, assisté de Stéphane Rousset, à la programmation Julien Cotreau, Caroline Prota, Romain Bonifaci, Hugo Vlaminck, Dorian Vidal, Emma Bouvier, Mathéo Bardiot, Fabien Etchecopard pour la coordination, à la programmation musicale Thierry Dupin, et merci aussi à Louise et Noémie au standard. Demain et tout le week-end, vous retrouverez Céline Asselot à ce micro.